France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Il faut une autre OTAN, pas cette organisation, cette somme des Américains, de l'Europe et de quelques accessoires, comme le diagnostiquait déjà De Gaulle en 61, mettant en garde les Européens contre la dépendance, la leur à l'égard de la première puissance militaire mondiale pour les défendre, avec Trump à la tête des États-Unis qui menace de faire imploser l'OTAN, si, cette dépendance n'est que plus flagrante, voire risquée. Bonjour Nicole Niesoto.
Bonjour.
Vous êtes présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, ancienne membre de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 et co-auteur récemment avec Pascal Lamy de « Où va l'Europe ?» paru chez Odile Jacob. À vos côtés, Pascal Boniface, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris 8 et directeur de plusieurs revues, dont la revue internationale et stratégique. Ça va, vous avez pu dormir quand même un peu?
Oui, plutôt de façon joyeuse.
Plutôt de façon joyeuse, et ça c'est toujours bien de dormir sur ses deux oreilles. Avec cette finale donc que vous attendez probablement pour dimanche et un match France-Belgique qui s'est bien terminé pour la France, dont on reparlera ensemble dans la deuxième partie de ces matins. Après un G7 où chaque partie a avalé des couleuvres pour se solder par un retrait du soutien des États-Unis au communiqué commun final, l'alliance transatlantique, faut-il aller, Nicole Niesoto, vers l'unité à tout prix?
Écoutez, le simple fait qu'on ne sache pas une heure avant l'ouverture du sommet ce qui va se passer, dans quel état sera le président des États-Unis, ce qu'il peut dire ou ne pas dire, prouve à quel point déjà l'Alliance Atlantique va mal. Je crois que c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale où on a un président des États-Unis qui ne prend pas au sérieux la notion même d'alliance. On a souvent eu des crises transatlantiques, on a souvent eu des désaccords entre les Européens et les Américains, mais c'était des désaccords sur telle ou telle crise, sur les euromissiles, sur l'Irak en 2003. Là, c'est la première fois qu'on a un problème sur la notion même d'alliance, et ce président des États-Unis est non seulement peu convaincu de la nécessité des alliés permanents, mais surtout très anti-allemand. Et donc on cumule un président pour lequel la notion d'alliance permanente est accidentelle et pour lequel l'Allemagne est véritablement un problème économique, commercial, etc. D'où l'avenir de l'Alliance Atlantique est, me semble-t-il, assez compromis. C'est un président qui sape, depuis qu'il a été élu, les fondements même de la puissance occidentale. Donc bien au-delà de l'Alliance, c'est l'Occident qui est en cause, puisque le président remet en cause le libéralisme économique qui a fait quand même la fortune des Européens et des Américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une part, et le deuxième pilier de la puissance de l'Occident, ce sont les alliances entre les démocraties. Et on se souvient qu'il y a quelques mois, le président a annulé, dans le cadre de sa politique vis-à-vis de la Corée du Nord, a annulé des manœuvres très importantes qui ont sidéré ses alliés démocratiques de l'Asie, c'est-à-dire le Japon et la Corée du Sud. Donc on est dans une matinée de tous les possibles, pas forcément le pire, parce que il est tellement insaisissable que finalement, après tout, il peut être très content de la victoire de la France, par exemple. Hier. Mais on est quand même sur le fond, en substance, la notion d'alliance occidentale me paraît aujourd'hui très compromise.
Oui, alors il a comparé l'OTAN à l'ALENA, aux accords de l'ALENA, en estimant que l'un comme l'autre était franchement mauvais, Donald Trump. Ce que vous êtes en train de nous dire, Nicole Niesoto, c'est aussi que aujourd'hui, l'OTAN, cette alliance, n'est forte qu'avec une Amérique forte et convaincue de l'utilité de cette alliance transatlantique face à l'imprévisibilité du président américain. L'OTAN risque de montrer des vrais signes de fragilité. Pascal Boniface, dans cette logique du rapport de force permanent qui s'est mis en place entre Washington et ses alliés, peut-il encore y avoir des alliances pérennes?
C'est tout le problème, parce qu'effectivement, l'alliance, Nicole Niesoto a raison de dire qu'il y a des malentendus transatlantiques, pour reprendre l'expression de Kissinger, ont été nombreux. Mais là, c'est plus qu'un malentendu, parce que c'est le principe même de l'alliance qui est remis en cause par son leader. Pas par un pays qui a des désaccords profonds. C'est le leader, le président du pays leader et qui bénéficie de l'alliance atlantique, contrairement à ce qu'il dit, qui remet en cause le principe. Et les pays européens membres de l'alliance sont un petit peu comme étaient les staliniens lorsque Gorbatchev a lancé la perestroïka. ils sont déçus parce que c'est le centre qui, tout d'un coup, remet en cause le principe qui fait l'unité de tous ces pays. Et effectivement, il y a une crise profonde parce que les Européens se disent qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller vers plus d'autonomie? La France le réclame depuis longtemps sans résultat concret. Et d'autres qui sont complètement désemparés et qui veulent rajouter de la solidarité et dans l'obéissance avec Washington pour essayer de préserver un lien, pour dire, comme le font par exemple les Polonais, on va verser 2 milliards de dollars par an aux États-Unis pour maintenir une présence américaine. Donc il y a vraiment là les pays européens qui sont habitués à une alliance qui est dirigée, parfois un peu malmenée, mais qui est quand même dirigée par Washington, sont complètement désemparés de voir que Washington remet en cause le principe de l'alliance. Et ce n'est pas une crise passagère, parce que Donald Trump est au pouvoir au moins jusqu'en 2020. On ne peut pas exclure qu'il soit réélu vu le bon état de l'économie américaine. Et donc c'est vraiment une crise structurelle qui devrait normalement pousser les Européens un peu plus de réflexion sur pourquoi sont-ils dépendants par rapport à Washington, qu'est-ce que ça signifie et sont-ils d'ailleurs réellement dépendants? A-t-on réellement besoin aujourd'hui d'une protection américaine pour notre sécurité, ou les Américains ne sont pas au contraire plutôt porteurs d'insécurité que de sécurité vu le comportement de leur président?
Juste Pascal Boniface, est-ce que j'ai bien entendu, vous avez dit Donald Trump, enfin les États-Unis bénéficient de l'alliance transatlantique,
contrairement oui, bien sûr. À ce qu'il dit? Le discours consistant à dire tout ceci nous coûte cher, etc. Si les Américains ont créé l'OTAN et s'ils l'ont maintenu, c'est pas pour les beaux yeux des Européens, c'est pour leur intérêt. En 90, ils auraient pu dire mission accomplie, il n'y a plus de menace soviétique. Qui a fait des pieds et des mains pour que l'OTAN subsiste comme alliance par rapport à une menace qui a disparu? Ce sont bien les Américains. Pourquoi? Parce que ça leur donne une capacité d'influence très forte auprès des pays européens. Ça crée une dépendance des Européens par rapport aux Américains et donc c'est un moyen. C'est grâce à l'OTAN, les États-Unis sont une puissance européenne.
Alors les Européens ont-ils pris la mesure du défi qu'il leur est lancé? Je vous propose d'écouter ce qu'en dit le secrétaire général de l'OTAN qui revient sur ce sommet de l'Alliance qui doit s'ouvrir aujourd'hui à Bruxelles.
Je suis tout à fait confiant que le sommet de l'OTAN permettra de montrer l'unité transatlantique, à savoir que l'Amérique du Nord et l'Europe se tiennent côte à côte. Je reconnais qu'il existe des désaccords sur des points sérieux, par exemple le commerce, l'accord Paris sur le climat, l'accord iranien sur le nucléaire. Mais ce que nous avons vu avant et que nous continuons à voir d'ailleurs, c'est que malgré ces différences, l'OTAN est en mesure de s'acquitter de ses principales responsabilités, la sécurité, la défense, et nous voyons que les États-Unis renforcent leur présence en Europe et en même temps les alliés européens en font davantage. Donc grâce à cela, nous voyons que ce lien transatlantique n'est en fait pas affaibli mais renforcé.
Le Norvégien Jens Stoltenberg, est-ce qu'on est dans une situation pour vous de déni aujourd'hui, Nicolas Otto?
Alors, du point de vue des autorités de l'OTAN et de la bureaucratie de l'OTAN, oui, certainement, parce que c'est leur culture, leur institution qui est en cause si jamais on dit publiquement que l'Alliance Atlantique va mal. Donc on ne peut pas s'attendre autre chose de la part du secrétaire général de l'OTAN.
Donc là, c'est de la langue de bois officielle.
Qui disent tout va bien, on s'aime, on s'adore
et ça continuera
toujours.
Au final, tout le monde tremble.
Mais je crois que moi, pour les Européens, les Européens sont dans le pire de deux mondes. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont une Alliance Atlantique qui n'est plus sûre, puisque les États-Unis peuvent la remettre en cause, mais de l'autre, ils ont une menace russe qui n'est plus totalement improbable. Et donc, s'ils sont déchirés entre ces deux menaces, si je puis dire, la menace de l'ami américain et la menace du partenaire russe. Et donc, d'un côté, il y a une attitude, effectivement, des Européens de déni, c'est-à-dire surtout ne pas aller trop loin dans une défense européenne autonome qui pourrait amener les Américains à faire encore plus, à quitter encore plus l'Europe, donc surtout ne pas donner aux Américains des arguments supplémentaires pour partir. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a ceux qui sont pour une politique de sursaut, dont la France, qui se rendent compte que les Américains sont devenus un autre partenaire, ils sont pas forcément fous, il y a des logiques derrière la position américaine, mais que l'Amérique a changé, le monde a changé, et que les Européens doivent vraiment construire une défense européenne autonome, de façon à avoir une contre-assurance. Et les Européens sont paralysés entre ces deux attitudes, plus d'Europe ou plus d'OTAN pour maintenir les Américains, et du coup, il ne se passe pas grand-chose.
Mais il a raison pour vous, Justin Trudeau, de durcir le ton face à Moscou. à la veille de sommet ?
Alors, il est clair que l'attitude des Russes n'est pas ce qu'on peut appeler une attitude amicale. Mais le problème de la Russie, c'est qu'elle a une contiguïté territoriale avec les Européens et que donc on ne peut pas la considérer comme une menace, comme si elle était sur un troisième continent. Moi, je crois que les Russes sont un adversaire sur la question de la sécurité européenne parce qu'ils ont annexé la Crimée, parce qu'ils maintiennent une ambiguïté militaire déstabilisante sur les Baltes et l'ensemble de l'ex-Empire soviétique, mais en revanche, sur le reste du monde, ils sont un partenaire dont on a besoin, ils sont un partenaire sur l'Iran, ils sont un partenaire forcément sur une solution à terme de la Syrie, et que donc on ne peut pas uniquement se contenter de dénoncer la menace russe. On est obligé, et je crois que là, on devrait quand même ressusciter la question entre Européens d'une architecture de sécurité sur l'Europe. Il faut trouver un mode de relation stratégique avec la Russie qui soit autre chose que celle de l'inexistence. Nous n'avons pas de structure de sécurité avec la Russie. Je ne dis pas qu'elle doit être commune, mais il faut trouver un mode de relation partenaire-adversaire qui permette d'aller plus loin que cette angoisse.
Mais on n'y arrive pas. Et si le problème, Pascal Boniface, et si le problème c'était nous, les Occidentaux, et si le Kremlin avait raison, et si l'OTAN n'avait jamais su dépasser la guerre froide, cette confrontation, cette opposition à la Russie, est-ce qu'elle reste pour vous structurante dans l'esprit des Européens et des Américains ?
Oui, mais de façon tout à fait anormale. On a visiblement loupé la sortie de la guerre froide. Les Américains ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial qu'ils célébraient, mais qu'ils ne mettaient pas en pratique, en lâchant Gorbatchev, en pensant qu'avec Elstine, pouvait s'arranger et qu'on allait faire accepter n'importe quoi aux Russes. Les Américains et la structure de l'OTAN voient en fait dans la Russie à la fois le pays qui a perdu la guerre froide et qui n'a pas son mot à dire, et en même temps toujours une menace existentielle comme du temps de l'Union soviétique. Et donc c'est un comportement, on renforce nos défenses, alors on dit que c'est tout à fait rationnel du côté européen et occidental parce que les Russes ont fait des mauvaises manières en Crimée, etc. Et en même temps, comme on élargit l'OTAN, la Russie se sent encerclée et réagit à son tour. Donc en fait, il y a un cercle vicieux, et effectivement, l'OTAN a occupé l'espace. Il n'y a plus l'Union de l'Europe occidentale qui était le seul corps purement européen de défense qui existait, et l'OSCE a été phagocyté par l'OTAN. Et donc l'OTAN est venu occuper un peu comme une sorte d'industriel dont le produit sécurité des pays européens n'est plus vraiment à la mode parce que la menace soviétique avait disparu, s'est doté d'autres tâches et a étouffé les concurrents. Et donc effectivement, une organisation pan-européenne de sécurité, un dialogue plus nourri avec les Russes sur quelles sont les conditions d'une véritable sécurité européenne, donc entre pays membres du continent européen, n'a pas lieu, et l'OTAN est à la fois la solution et le problème, parce que structurellement, l'OTAN a besoin de la menace russe pour exister, et les gens qui sont à l'OTAN sont payés pour magnifier la menace russe et s'en effrayer.
Alors, en attendant ce dialogue nourri, c'est Donald Trump qui va aller le tenir avec Vladimir Poutine à Helsinki le 16 juillet. Là, il y a des nouvelles alliances possibles en passant au-dessus de l'OTAN, vous pensez, entre les États-Unis et la Russie ?
Les Américains sont divisés, parce que Donald Trump, depuis le départ, veut une alliance avec Poutine, il l'a dit dans la campagne électorale, mais pour l'instant, ils vont se voir en bilatéral pour la première fois depuis que Trump est au pouvoir. C'est que donc ça patine. Pourquoi ? Parce que les services de sécurité, le Pentagone, etc., sont très hostiles. Eux continuent à voir dans la Russie une menace. Trump, on ne sait pas trop pourquoi, mais est-ce qu'il apprécie l'homme fort qui est Poutine ? Est-ce qu'il veut montrer qu'il a l'art du deal et que ce qu'on n'a pas fait ses prédécesseurs, il peut le faire, notamment Obama, qui avait dit qu'il voulait appuyer sur le bouton reset des relations avec la Russie qui n'y est pas parvenue, mais les services, les structures sécuritaires américaines sont très hostiles. Certains disent aux États-Unis, finalement, quel est l'adversaire principal, la menace stratégique majeure pour Washington ? C'est la Chine. Donc, il n'est pas nécessaire de pousser les Russes dans les bras des Chinois. Et effectivement, sur bien des dossiers, nous, Européens, on est plus sur la ligne de la Russie, je pense au nucléaire iranien, je pense effectivement sur le Sahel également, que sur la ligne américaine. Donc on a avec les Russes en tant qu'Européens d'importantes lignes de division, mais en même temps d'importantes lignes de coopération. Et ce n'est pas normalement aux Américains de dicter quelle doit être notre relation avec Moscou, ce que veut faire Donald Trump.
C'est aux Européens de trouver, Nicolas Soto, leur propre ligne à défendre.
Moi, je ne crois pas que Donald Trump ait une grande vision stratégique sur l'architecture de sécurité européenne et a fortiori mondiale. Il va voir Poutine. D'abord parce qu'il a un problème personnel avec la Russie, donc je ne sais pas ce qu'il pourra en sortir. Deuxièmement, parce que je crois qu'il a
quel
besoin...
Quel problème personnel avec
la Russie? L'ingérence de la Russie dans les affaires électorales américaines, les rumeurs qu'il y a eu sur les compromissions de Trump avec des réseaux de prostituées russes. Enfin, il y a plusieurs choses à régler sur le plan du renseignement, je crois. Mais surtout, je crois qu'il a besoin de la Russie sur le dossier qui, pour lui, est prioritaire, qui est l'Iran. Il a besoin, je crois que la politique de Trump, c'est quand même sur la question iranienne de suivre complètement la politique d'Israël. Il a besoin de neutraliser la puissance iranienne, donc il a besoin d'avoir une espèce d'assurance, non pas de coopération, mais de neutralité de la Russie sur cette affaire.
Qu'est-ce qu'il a à donner en échange, puisque tout est deal aujourd'hui, troc?
Peut-être beaucoup de choses sur le plan commercial, parce que la Russie a peut-être des rodomontades de grande puissance aujourd'hui, ça c'est certain, mais sur le plan économique et commercial, la Russie est un pays qui n'est pas en faillite, mais enfin dont la situation économique ne cesse de se dégrader, et il n'est pas évident pour Poutine de pouvoir maintenir longtemps son statut de puissance sur la base d'un épuisement du rouble, d'une dévaluation du rouble, d'un épuisement de l'économie russe. Donc je pense qu'il y a des deals à faire sur ce plan là. Mais pour en revenir aux Européens, je crois que vraiment la formule du président Mitterrand était la bonne. Malheureusement, elle est venue trop tôt et peut-être mal interprétée. La maison commune, l'architecture de sécurité européenne, je crois que ça doit être le dossier avec les Américains. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on exclue les Américains d'une structure de coopération européenne, mais je crois que c'est ce dossier qu'il faut reprendre avec la Russie. Le problème des Européens, c'est qu'il faut d'abord qu'ils aient eux-mêmes une vision européenne commune de leurs relations.
Pascal Boniface, un mot de ces relations entre Washington et Moscou.
Alors bien sûr, ce que souhaite Moscou, c'est la levée des sanctions qui les pénalisent, même si grâce à l'élévation du prix du pétrole, ils sont un peu en meilleure position maintenant. Et Moscou sait que c'est pas les Européens. Il y a une très grande déception à Moscou en disant les Européens auraient pu lever les sanctions, ils ne le font pas. Et en fait, la vérité, la solution est à Washington. Les Européens ne font que suivre fidèlement ce que décide Washington. Mais de là à lâcher l'Iran, je ne le crois pas, parce que Poutine et la Russie se font fort de ne jamais lâcher leur alliés, notamment Bachar el-Assad. Et donc, ils ont besoin aussi de l'Iran en Syrie. Et donc, je ne crois pas qu'il y aura un échange où on aide les États-Unis sur le dossier iranien en échange d'une levée des sanctions. Et Poutine, au contraire, se glorifie d'être toujours ferme dans ses alliances et d'être une véritable garantie, contrairement à des Américains volatiles qui changent d'avis. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir autrement? Mais je crois que ça sera vraiment la levée des sanctions qui est la clé. Et je ne sais pas si, vu son affaiblissement sur le dossier russe, Trump a les moyens de lever les sanctions aujourd'hui.
Il faut qu'on parle un peu gros sous, puisque c'est au cœur de cette discorde trumpienne. Aujourd'hui, il règle ses comptes en demandant à certains pays de l'OTAN de rembourser les arriérés qu'ils doivent aux États-Unis. Vous l'évoquiez, Pascal Boniface, hier, il ne promettait plus une protection automatique en cas de menace ou d'attaque contre l'un des alliés de l'OTAN. C'est effectivement assez difficile d'être serein avec un allié qui négocie en permanence son soutien. Alors on en est où financièrement parlant? Les États-Unis sont le plus gros contributeur au budget de l'OTAN, ça c'est une vérité. Ou une réalité. Est-ce qu'il faut pourtant revoir le partage du fardeau? Est-ce que ce partage pour l'instant n'est pas efficace ou n'est pas juste?
Surtout, les Américains achètent des armes aux États-Unis. Le budget de l'OTAN les Européens achètent des armes aux États-Unis, pardon. Le budget de l'OTAN en tant que tel, c'est une structure qui n'est pas si lourde. Ce qui compte, c'est les budgets militaires. Le budget global de l'OTAN, des pays membres de l'OTAN, c'est 954 milliards de dollars de dépenses. La Russie, 66. Donc, quand même, le rapport de force n'est pas aussi grand, même si on peut y avoir d'autres menaces que les menaces directes par les chars. Mais ce en quoi les États-Unis bénéficient de l'OTAN, c'est que en demandant aux pays européens d'augmenter à 2% de leur PIB leur budget de défense, ça se traduit surtout par des achats d'armes. Et l'autre demande, c'est que 20% des budgets militaires de chaque pays soient consacrés à l'achat d'équipements majeurs. Or, à part la France, le Royaume-Uni et un peu l'Allemagne, les pays européens n'ont pas d'industrie de défense. Et donc, ça se traduit par des achats. Et on va voir, il y a de nombreux pays européens qui doivent renouveler leur flotte de combat, les avions. Ils vont plutôt acheter des F-35 que des avions européens. Et ça, quand même, c'est bien le prix à payer pour l'OTAN.
Bon, il y avait quand même déjà un engagement des alliés à augmenter leurs dépenses de défense hein, depuis le sommet Newport au Pays de Galles il y a 3 ans, de les porter à 2% au moins de leur PIB. Cet engagement, Nicole Nisotto, il a été acté dans la nouvelle loi de programmation militaire qui sera promulguée ce vendredi par le président de la République. Florence Parly, la ministre des Armées, le disait ce week-end dans le JDD, la politique du rabot, c'est fini. La France va être à la hauteur de ses engagements, en tout cas sur le plan financier, elle le souhaite aujourd'hui. On va voir cette augmentation des dépenses se réaliser, qui nous permettra peut-être de peser plus aussi au sein de l'Alliance transatlantique.
Oui, alors, d'abord sur le partage du fardeau. Le partage du fardeau, c'est une vieille histoire au sein de l'OTAN depuis les années 60. Les Américains utilisent cet argument du genre « vous ne dépensez pas assez pour la défense » pour obtenir des Européens, non pas qu'ils augmentent leur budget de défense, mais qu'ils achètent américains. Donc ça, le fait qu'aujourd'hui Donald Trump reprenne cette problématique n'est pas en soi une nouveauté. Ce qui est plus nouveau, c'est de vouloir la faire appliquer systématiquement par tous les pays, et en particulier par l'Allemagne. Donald Trump a envie, a dans son radar l'Allemagne. Or, si l'Allemagne augmentait son budget à 2% du PIB, l'Allemagne dépenserait plus en matière militaire que la France. Et donc, sur le plan politique, les Allemands sont très gênés. Les Allemands n'ont aucune difficulté à passer à 2%, mais ils ne veulent pas, du coup, apparaître comme le pays le plus militariste, en tout cas sur le plan du budget de défense, de l'OTAN et de l'Europe. Et donc, ça, le président Trump l'ignore totalement. Pour en revenir à la France, le président Macron, dès le départ, et d'ailleurs ça avait été le cas la dernière année du président Hollande, Hollande avait non seulement gelé les baisses des budgets de défense, mais il avait rétabli un certain nombre de choses qui avaient été annulées dans la loi de programmation. Mais le président Macron, dès le départ, bien avant l'injonction, enfin la décision de l'OTAN, avait décidé d'augmenter le budget militaire de la France, et en tout cas de stopper la baisse des effectifs militaires. Donc oui, la France va porter son effort de défense à 2% du PIB. Et ça me paraît parfaitement compatible avec les interventions extérieures françaises et l'ambition de la France pour l'Europe, dont on n'a pas assez parlé.
Nicole Nisotto de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, vous restez avec nous.